Parole d'assaut, une émission de Didier Blonce, prise de son Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevons Graines d'Union avec deux invités, Jibril Garam et Thomas Verny. Jibril Garam, Thomas Verny, bonjour, parlez-moi de cette association Graines d'Union. Le mot graine, c'est pas innocent, le mot graine.
Bonjour Thomas Verny, du coup non, c'est pas du tout innocent, Graine d'Union, notamment le mot graine en fait, parce que la base de l'association provient notamment des graines. En fait, on a souhaité monter l'association pour un troc de graines au départ, qui se facilite via l'association en fait. Jibril a commencé comme ça de son côté avec les graines, en les envoyant notamment en Afrique, etc. Et le courrier était égaré en nom propre. Le fait de passer par une association et notamment Graines d'Union fait qu'on a au niveau douanier beaucoup moins de soucis pour l'envoi des graines.
C'est quoi ces graines qu'on envoie? Pourquoi on envoie des graines? Il y a des graines aussi en Afrique.
Des graines, alors c'est vrai qu'on a l'appellation graines qui est un peu généraliste. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de graines, notamment ce qu'on trouve essentiellement dans le commerce, ce sont ce qu'on appelle des effins ou hybrides.
Jibril Garam.
Qui sont génétiquement modifiés et qui ont besoin d'apports un peu différents par la suite, notamment en matière d'herbicides, fongicides, etc. Et nous, nous sommes attaqués aux graines dites libres ou paysannes, qui justement étaient les graines primaires avec lesquelles nos anciens plantaient que ce soit les légumineux ou les céréales comme le blé ou le maïs. Et on a voulu vraiment aller à la source du problème et repartir vraiment du début pour au final essayer de recréer une technique agricole. Et je dis bien recréer parce qu'on crée rien, au final on reprend les choses qui étaient faites avant, et de sortir un peu d'un modèle qui est un peu classique et dont on voit que ça fonctionne pas, quoi.
C'est une démarche qui doit plaire aux anciens, mais qui doit énormément plaire aux écolos. J'ai l'impression qu'on est un peu dans l'air du temps.
C'est ça. Bah, nous, c'est vrai qu'on a développé cette idée-là depuis, on va dire, 2014, où ça a vraiment germé dans nos esprits. Mais on a attendu. C'est vrai qu'on est, faut être pragmatique à un moment donné. On est quand même dans une société qui est capitaliste, donc si on veut fonctionner, c'est quand même à base d'argent ou à base de sujets qui sont quand même importants. Donc on a attendu vraiment de voir que les gens se sensibilisaient. On savait qu'il y en avait déjà, mais on a vraiment attendu qu'il y ait un grand éveil, entre guillemets, où là on voit que ce soit les jeunes, les moins jeunes, qui essayent par des petits actes ou des plus gros de faire quelque chose d'alternatif, parce qu'on voit qu'à un moment, ça ne fonctionne plus.
Vous envoyez des graines en Afrique. Est-ce qu'il y a aussi un simple échange de graines entre Havrais ou gens de la région havraise?
Oui, alors aujourd'hui, c'est très très peu développé. Il y a quelques trocs de graines qui se font et de plants au printemps qui sont assez sympathiques, notamment avec la ville du Havre ou encore la ville de Montivilliers. Mais il y a encore matière à faire. Je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère, entre guillemets, où les gens veulent plus partager qu'acheter ou vendre. On le voit autour de nous, de toute façon, même à travers nos chantiers participatifs qu'on fait sur le site pratiquement tous les dimanches, on voit vraiment des gens de tous les horizons, de tous les âges venir, et ça c'est vraiment plaisant à voir.
On peut vous voir sur les marchés?
Pas encore, là on compte se développer un peu plus tard, et c'est vrai que la finalité ce sera vraiment pas forcément la culture maraîchère et la vente de légumes, ce sera pas le fond du problème. Nous, on aspire vraiment à être un mini-laboratoire, à faire des expériences, des expérimentations pour prouver aux gens, à travers autre chose qu'une simple conférence ou une réunion, que ça fonctionne avec des choses concrètes, et aussi essayer de développer des solutions alternatives pour prouver aussi que même en milieu urbain ou très très urbain, voire plus, où il n'y a pas un carré vert, on peut cultiver, on peut amener de la nourriture à l'intérieur de la ville, et évidemment il n'y a pas que la production, il y a aussi le transport, Il y a toutes ces choses-là sur lesquelles on fait un gros effort.
Il y a quelque chose d'assez scientifique dans votre démarche, parce que moi qui suis un jardinier d'occasion sur mon balcon, une graine, c'est une graine, on la prend, on l'achète dans le commerce, on la prend dans le sac, on la plante dans la terre, on arrose, et puis ça pousse tout seul. Votre démarche est très particulière, elle est beaucoup plus elle est documentée, elle est, quand je parle de démarche scientifique, il y a quelque chose comme ça.
Alors oui, bien sûr, et c'est toute la clé du projet. Personnellement, je suis autodidacte, j'ai aucun diplôme en la matière. Et ça, il y en a certains qui voudraient pas le cacher, mais qui ne le mettraient pas forcément en avant. Mais moi, justement, je le mets en avant pour prouver aux autres aussi que un simple citoyen peut agir autrement qu'en criant ou en mettant des commentaires sur les réseaux sociaux. On peut faire quelque chose de concret à son échelle. Pas forcément créer une micro-ferme comme nous, mais on peut créer une petite zone de jardin avec les gens de sa copropriété. On peut amener des petits projets, petits, grands ou moyens. Il suffit juste, comme vous dites, de se documenter, d'aller un peu dans les livres. On a aussi les archives municipales qui sont sublimes au Havre et qui sont très, très, très peu fréquentées. Je trouve ça dommage, que pas forcément que le point de vue permaculture ou culture, même ne serait-ce que pour autre chose, pour des recherches. On veut aussi pas être l'exemple, loin de là, parce qu'il faut quand même rester à notre place, mais de montrer aux gens que c'est possible, même sans diplôme, même sans avoir certaines capacités ou certains acquis, on peut toujours apprendre et faire quelque chose dans sa vie.
Comment vous faites pour repérer ces graines anciennes ou naturelles qui n'ont pas été génétiquement modifiées? Parce que moi, je vous apporte, ou vous m'apportez 3 graines de radis. Pour moi, ce sont 3 graines de radis. Or, on sait qu'il y a des radis longs, il y en a des roses, il y a toutes formes de radis, c'est même la richesse des graines. Vous faites comment pour les reconnaître?
Chacun sa technique, j'ai envie de dire, parce que je veux pas dire qu'il y a une technique fixe. Par rapport aux graines, c'est très 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 compliqué, même à l'œil nu, c'est pratiquement impossible. On peut différencier certaines variétés, parce qu'il y a tout type de graines, tout type de taille, même à l'intérieur d'une même variété, un haricot Maugette de Vendée ou un haricot Ponto de Mer n'aura pas la même taille, n'a pas la même forme, pas les mêmes jeux de couleurs aussi. Et ensuite, quand on n'est pas sûr ou qu'il y a vraiment trop de ressemblances, par exemple, comme vous dites, des graines de radis qui sont assez petites, bon, ça va être du microscope ou alors de la culture et de l'observation pour voir si, dans un sol à nu, est-ce qu'elle va se débrouiller. Si on voit qu'il y a certaines maladies qui vont se développer plus vite, on va pouvoir en déduire aussi que ce sont des hybrides, puisqu'on n'aura amené aucun apport. Je rappelle qu'en permaculture, on apporte pratiquement zéro arrosage et aucun produit phytosanitaire. On travaille par la synergie des plantes, c'est-à-dire qu'une plante en protège une autre ou fait barrière chimique vis-à-vis d'une maladie pour l'autre, etc. Donc voilà.
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Parce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins? pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Oh, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Didier Blonce vous présente Parole d'assaut.
Cette permaculture, il y a tout un savoir, toute une connaissance, tout un apprentissage que on a perdu au fil du temps, justement grâce ou surtout peut-être à cause de tous ces herbicides qu'on a apportés en croyant bien faire. Il faut réapprendre.
C'est ça, c'est compliqué de réapprendre, justement, comme on dit, les vieilles habitudes ont la vie longue, surtout envers les anciens. C'est vrai que ça a été compliqué. Je parle d'une génération d'après-guerre où il fallait aller très très vite, où le modèle fonctionnait encore parce qu'on avait encore des terres qui étaient assez riches. Il y avait encore très peu de matière organique qui avait fuité à travers nos rivières et qui alimentent certaines algues qu'on retrouve en quantité monstrueuse, on ne sait pas d'où ça vient sur cette plage de France. Il faudrait relier les causes à effet un petit peu à un moment. Et aussi, il y avait le souci, de, comme on dit, d'aller très vite. Hein. Je prends l'exemple aussi de l'amiante. On savait que c'était un problème. Mais voilà, on était dans l'après-guerre, il fallait aller très vite. On avait un gros besoin de construction. Donc c'était un peu le même système agricole. Mais aujourd'hui, les terres s'appauvrissent. Beaucoup de fermiers disent que les cailloux remontent. Non, les cailloux ne remontent pas. C'est la terre qui s'en va. On le voit en passant dans les champs, maintenant les chemins, les routes sont surélevées. Elles ne sont pas surélevées, c'est encore une fois les champs qui ont foutu le camp. Excusez-moi du terme, mais on se rend compte de tout cela, on le voit. Et encore une fois, les anciens, ils veulent des actes, ils ne veulent plus de paroles. Et les jeunes, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc comme on a dit dans un reportage, on a voulu arrêter de discuter et réellement passer à l'action. Et c'est ce qu'on a fait à travers notre projet.
Je vais rebondir si vous me le permettez. Oui, en fait, oui. Bon, moi, j'ai une étude beaucoup moins poussée que Djibril sur toutes les graines, etc. La façon de cultiver, comme vous le remarquiez tout à l'heure, la plupart des gens ont en tête de planter une graine, l'arroser, la faire pousser.
Thomas Vernis.
Donc, il y a tout un aspect différent en fait dans la permaculture, et c'est ça qu'on veut montrer aux personnes via Graines d'Union, justement, parce que au-delà des graines, il y a aussi le lieu qu'on est en train de développer et d'aménager pour tout le monde, lieu qui sera un lieu d'échange et de convivialité, donc intergénérationnel aussi. Et sur ce lieu, en fait, d'où l'intérêt d'avoir un laboratoire, entre guillemets, ce sera justement d'avoir toutes ces petites expériences qui seront reproductibles chez les particuliers sur une petite surface ou sur une grande, en fonction de ce qu'ils disposent. Mais surtout, réapprendre aux gens, voilà, les bonnes façons de faire. Les bonnes façons, voilà, ça reste aussi un terme à côté de tout le reste, mais ne serait-ce que pouvoir faire les plantations en synergie avec plusieurs espèces mélangées, etc., sans que ça appauvrisse la terre, sans avoir besoin de remettre de l'engrais, etc., d'arroser quotidiennement, d'être toujours présent, parce que la permaculture, en fait, vient de l'agroforesterie et du fait que la nature en soi se développe elle-même sans avoir besoin d'intervention de l'homme. Donc la permaculture reprend un petit peu ce principe, en grande partie même, et permet justement aux plantes de se développer en se protégeant mutuellement et en se donnant à manger, en quelque sorte, si on peut vraiment reprendre ce terme-là. Donc le but de l'association, c'est de faire découvrir ça à tout le monde, au maximum de personnes possible, via plusieurs petits ateliers, plein de petites animations qu'on mettra en place au fur et à mesure et qui seront ouvertes à tous.
Vous parliez de cette terre qui s'usait. J'ai appris que l'humus, qui est la partie supérieure, qui est la plus riche, justement, part avec les eaux de pluie parce qu'il n'y a plus de buissons, il n'y a plus de haies, il n'y a plus, ça part avec les orages, et qu'on trouve également, à cause des insecticides, de moins en moins de vers de terre dans la terre.
C'est ça. Alors, pour pas faire le plagiat, je reprends les mots de Claude et Lydia Bourguignon, qui sont des pionniers dans ce secteur-là. On est passé, en moins de 100 ans, d'une tonne à l'hectare à 100 kilos de vers de terre. On a réussi à contrer la chose parce que jusque dans les années 80, déjà on labourait pas trop profond, on montait pas à 50, 60 cm, et il y avait encore des haies autour des champs. Sans le faire exprès, on a réussi à garder une petite sylviculture qui nous a permis d'éviter certaines érosions des sols et une meilleure minéralisation à travers les racines de ces arbres, de tous les nutriments. Parce qu'il faut savoir que les herbicides et pesticides, ça stimule les bactéries minéralisent au maximum, les champignons n'ont pas le temps de suivre et tout part polluer les nappes phréatiques, sans que les plantes aient le temps de se nourrir de quoi que ce soit. Et le problème du ver de terre, c'est vraiment pour moi la clé de voûte, c'est que le ver de terre, bon, on va aller un peu dans l'aspect technique, mais il a une glande qui sécrète du calcium. Et ce calcium a deux ions négatifs. Vous avez d'un côté l'argile et l'humus qui ont, eux, deux ions positifs. Grâce à ça, lorsque le ver de terre se vide pour faire demi-tour, il relie l'humus et l'argile. On appelle ça le complexe argilo-humique. En clair, on appelle ça la terre. Donc le fait qu'il y ait beaucoup moins de vers de terre, humus et argile se repoussent, du fait qu'ils aient deux ions positifs, et donc bah, ça a du mal à se mélanger, clairement, hein, la terre ne se mélange pas, il reste plus que l'argile et les cailloux, et l'humus s'en va avec les pluies, et c'est pour ça qu'on voit les rivières qui sont marrons, et comme on disait tout à l'heure, tous ces nutriments vont à la mer, dans les deltas, en fin de rivière. Ça nourrit des larves ou des petites algues qui auraient dû normalement mourir par milliers, parce qu'ils pondent des milliers de petites larves. Ou quand vous avez 1000 larves de méduses, normalement il y en a, je dis une bêtise peut-être, il y en a 50 qui survivent. Bah, du fait qu'il y ait autant de nutriments, ces 1000 larves survivent et ça forme des bancs et ça dérègle complètement tout l'écosystème. Et là on se retrouve, je crois que c'est en Bretagne, avec des plages qui sont interdites parce qu'il y a des algues partout. Et aujourd'hui, même. En haute sphère, entre guillemets, on n'arrive pas à faire le lien. Ou peut-être qu'on ne veut pas. Mais à un moment donné, nous, on s'en rend compte. Donc imaginez si quelqu'un comme moi, qui n'a aucun diplôme avec quelques recherches, arrive à faire des constats de faits. Hein. Encore une fois, je fais pas de. C'est des faits que je raconte. Donc imaginez des jeunes comme moi qui sont en pleine étude, toute cette génération-là, lorsque ça va ressortir, ça fera un poids énorme. Et j'espère que cette vague-là pourra contrer la grosse vague qui nous arrive dessus et qui est un peu, entre guillemets, pour être clair, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, de ce monde qu'on connaît.
Pour quelqu'un qui est autodidacte, tous les deux, vous maîtrisez bien le sujet et la théorie. Votre siège social, Graines d'Union.
Alors nous, on est situé au niveau de la Sente des Génovéfains. C'est à côté de l'abbaye de Graville, ancienne Sainte-Honorine. C'est dans le quartier de Graville.
On peut vous contacter par téléphone.
Alors nous, essentiellement, tout ce qui est événements, etc., c'est sur notre page Facebook qui s'appelle Graines d'Union. Vous tapez Graines d'Union, graines au singulier, vous trouverez facilement. Sinon, par mail en minuscule, graines d'Union, tout attaché, @gmail.com.
Si j'ai des graines que je ne sais pas quoi en faire, que je ne sais pas d'où elles viennent, ou que je veux échanger parce que j'ai des doubles qui me paraissent intéressants, parce que mon grand-père a continué de cultiver une plante qu'on a du mal à trouver dans les grandes surfaces spécialistes en jardinerie, je vous envoie un mail à grainesdunion@gmail.com. En ville, ce n'est pas toujours facile d'avoir un jardin.
Oui, c'est vrai. Bah, personnellement, j'avais commencé sur un groupe Facebook que j'avais créé qui s'appelait Le Jardin de Gibril, un petit post qui s'appelait Microculture sur balcon, justement. J'ai commencé à cultiver la moitié de mon balcon, ce qui représentait environ 6 mètres carrés, et j'ai réussi à y cultiver, même encore tout de suite, des salades, choux, radis, fraises, tomates, haricots, et tout ça en pot et en jardinière. Et encore une fois, avec un paillage adapté, ce qu'on appelle le paillage, la couverture du sol. Parce qu'au début, j'ai essayé la paille et le foin, mais c'est pas terrible avec le vent, les voisins n'étaient pas super contents. Donc j'ai mis des copeaux de bois, et ça m'a permis aussi, encore une fois, tout ça dans un esprit pour apprendre, en fait. Je me suis rendu compte, en mettant de la paille, qu'il y avait du vent, et ça, j'aurais pas pu le savoir sans avoir expérimenté la chose. Donc j'ai envie de dire aux gens aussi, faut pas hésiter à essayer. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est très complexe, que je vais pas forcément y arriver. entre nous, aujourd'hui, on trouve même des vidéos sur YouTube pour faire ses lacets. Donc, on peut trouver des vidéos pour planter une graine ou trouver une technique alternative ou 5 ou 6 techniques pour planter une graine. Donc, il ne faut pas hésiter à tester, à expérimenter, même si ça ne fonctionne pas. Reprendre l'expérience, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et si j'essayais avec plus d'eau, et si j'essayais un peu. Et au fur et à mesure, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre, entre guillemets. Parce qu'on a beau accumuler énormément de données, une fois qu'on arrive sur le terrain, on repart de zéro. Et je pense qu'on devrait plutôt commencer par là.
Vous êtes sur votre radio préférée avec Didier Blonce.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur. Ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place.
C'est tellement bon de manger, même au mois d'octobre, il y a encore des tomates qui rougissent.
C'est ça. Et même sans parler du côté sympa de planter ces tomates, il ne faut pas oublier qu'en matière de vitamines ou par exemple les lycopènes, les taux sont 10 fois supérieurs dans des tomates paysannes et que vous avez cultivées vous-même avec des graines de provenance paysanne vis-à-vis des hybrides. Donc étant donné qu'aujourd'hui on mange 10 fois moins de fruits et légumes, si ces mêmes fruits et légumes sont 10 fois moins riches, ça veut dire qu'aujourd'hui en réalité on mange 100 fois moins de fruits et légumes. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait des carences, qu'on attrape froid le 1er octobre, déjà on en mange trop peu et en plus elles sont trop peu riches, donc il faut revenir vers ça. Même si on mange toujours la même quantité, si c'est de provenance paysanne et de production locale, ce sera toujours 10 fois plus de richesse et d'apport nutritif que de la consommation classique en grande surface.
Les jardiniers d'après-guerre qui ont pris les mauvaises habitudes nous parlent de mauvaises herbes dans le jardin.
Ce qu'on appelle les mauvaises herbes, nous on les appelle adventices, et ils peuvent nous donner énormément d'avance sur une culture. ce qu'on appelle aussi ça les plantes bio-indicatrices. C'est-à-dire qu'en fonction des plantes qui poussent dans un sol, on peut un peu déterminer le type de sol, est-ce qu'il est acide ou non, est-ce qu'il a été labouré, est-ce qu'il a été mal, juste en fonction des plantes qui poussent dans ce sol. En répertoriant toutes les plantes qui sont présentes, on peut ensuite en déduire que tel type de plante pousse dans un sol très dense, donc s'il y a une majorité de cette population qui est de cette plante-là, on peut en déterminer le fait que le sol est dense. Donc ça nous permet d'avoir des petites indications en amont qui nous font gagner quelques mois, voire quelques années, avant d'avoir une culture stable, entre guillemets, et de viser à terme l'autosuffisance.
Vous avez beaucoup de gens qui cultivent sur leur balcon, ou la plupart des gens qui vous contactent ont un jardin. Qui vous contacte en priorité ?
Alors, en priorité, c'est vrai qu'on a vraiment deux tranches d'âge qui ressortent le plus, c'est les plus de 60 ans, entre guillemets, et les 20-30 ans. Et ces gens-là sont vraiment... Ils veulent vraiment découvrir, et ils ont vraiment... Enfin, mon sentiment de ce qui ressort de tous les contacts que j'ai pu avoir, c'est que les gens n'osent vraiment pas essayer. Et c'est ça le petit souci, et c'est ça qu'on veut prouver aux gens. On veut leur dire, vous pouvez essayer. C'est l'échec, c'est le meilleur des maîtres. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. On aura beau lire 10 fois un livre, si on fait la chose et qu'on échoue, on va savoir pourquoi on a échoué. On va avoir tous les sentiments qui vont avec, la sensation de réussite, la sensation d'échec. La sensation de réitérer l'acte et là de réussir, c'est beaucoup plus plaisant. Et je pense qu'on apprend beaucoup plus de choses que si on va lire des fiches, etc. Il faut expérimenter, il ne faut pas en avoir peur. Dans un petit coin de sa cuisine, avec un bout de coton, un yaourt vide, on met un peu de terre, on met une graine, on essaye. Quand vous épluchez vos poivrons pour les faire cuire, bah, récupérez les graines, essayez. Quand vous épluchez vos tomates et puis que vous enlevez l'eau qu'il y a dedans, avec les graines, récupérez les graines, essayez, ça coûte rien. Et encore mieux, si vous avez des enfants, c'est très très ludique et ils sont très demandeurs. On peut se dire oui, mais il va pas s'y intéresser. Ça prend 10 minutes, ce qui est parfait en matière de temps pour les enfants, c'est à peu près leur temps de concentration moyen. Et le fait de y revenir 2 semaines après, de voir que ça a poussé, c'est de voir ça dans leurs yeux, c'est excellent. Et encore une fois, si on les habitue tout petits à le faire, ils reproduiront le geste beaucoup plus facilement étant adultes que s'ils l'apprennent par eux-mêmes, parce que la moitié de ce qu'on fait, c'est ce qu'on a déjà fait enfant avec nos parents, presque.
Vous faites des échanges avec l'Afrique, vous envoyez des graines en Afrique, dans quel but ?
Le but pour nous, c'était vraiment de récupérer des graines pour créer une banque de graines, et ensuite, c'est les techniques de culture, l'adaptation et les techniques d'irrigation, qui sont propres à chacun en fonction de la région. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une graine de tomate disponible pour toute la France, sauf que quand vous cultivez en Normandie et dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit le sol ou les conditions climatiques, ça n'a rien à voir. Donc nous, on s'adapte aussi. On prend des graines, par exemple, aujourd'hui, on a une souche de piment d'Espelette qu'on cultive depuis 5 ans au Havre. Au début, on avait un petit fruit sur le pied. Et aujourd'hui, la souche qu'on a adaptée, entre guillemets, elle produit pratiquement autant qu'un piment d'Espelette qui pousserait à Espelette. Donc en voyant ça, on s'est dit, voilà... On peut apporter des solutions, mais des solutions adaptées. On ne peut pas envoyer les mêmes graines au Congo et en plein milieu du Sahel, au Niger, ce qui serait complètement aberrant. Donc on s'efforce d'essayer de trouver des partenaires dans plusieurs types de temps, parce que si quelqu'un est dans les Bouches-du-Rhône, on peut lui dire d'envoyer des graines en Afrique subsaharienne, il aura moins de temps à adapter ces graines-là que si nous on leur envoie notre propre souche. Donc il y a toutes ces choses-là qui se développent. Pour reprendre Thomas Sankara, il faut arrêter de leur envoyer des sacs de riz, il faut leur envoyer des charrues, il faut leur envoyer des graines, des techniques de culture et d'irrigation. Donc il faut prendre le problème à l'envers. Et pour moi, c'est une des clés de la liberté aussi, c'est l'autosuffisance, de pouvoir se nourrir par soi-même sans demander ou tendre la main.
Djibril Garam, Thomas Verny, je vous remercie. On peut retrouver sur votre page Facebook un certain nombre d'informations, dont les chantiers participatifs.
C'est ça, alors vous pouvez retrouver, comme vous dites, sur notre page Facebook Graines d'Union, tous les prochains événements, que ce soit les chantiers participatifs ou bientôt à venir une future conférence pour expliquer un petit peu le projet. Mais tout ce qui sera événementiel ou en savoir un peu plus dans le détail sur l'association, vous retrouverez ça sur notre page Facebook Graines d'Union.
C'était le 58e Parole d'Assaut, une émission de Didier Blonze, prise de son Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevions Graines d'Union. Merci à Djibril Garam et à Thomas Verny.
Merci.
Merci.